Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonjour à toutes et tous. Adieu le nom, adieu le père. Marine Le Pen doit proposer aujourd'hui aux adhérents du Front National de rebaptiser leur parti. Hier soir, ils ont voté les nouveaux statuts du FN, la fin du statut de président d'honneur pour Jean-Marie Le Pen notamment. Une table rase qui ne fait pas encore l'unanimité. Donald Trump, plus que jamais décidé à mener une guerre commerciale à l'Union Européenne. Hier en Pennsylvanie, il a défendu les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium. Un discours qui plaît dans un territoire au passé sidérurgique. Dans ce journal, nous parlerons aussi du Japon qui commémore aujourd'hui les 7 ans de la catastrophe de Fukushima. Malgré les efforts du gouvernement, seuls 10% des habitants sont revenus sur place. Et puis une étude qui n'étonnera sans doute pas les auditeurs de France Culture. Selon un sondage Via Voice pour Radio France, 90% des Français estiment que le journalisme est une activité utile et de plus en plus nécessaire. C'est la dernière étape, sans doute la plus symbolique dans la transformation, la dédiabolisation du Front National voulu par Marine Le Pen. La présidente du FN doit dévoiler cet après-midi à Lille le nouveau nom qu'elle entend donner au parti et qui sera ensuite soumis au vote des adhérents. Le Front National tient ce week-end dans la ville du Nord son congrès dit de la refondation. La première journée d'hier a été marquée par l'intervention de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, figure de l'ultra-droite américaine, et par le vote des nouveaux statuts du Front National. Les adhérents devaient notamment se prononcer sur la suppression du statut de président d'honneur de Jean-Marie Le Pen. Reportage à Lille d'Anne Fauquemberg.
Ils sont 1500 environ à avoir fait le déplacement. Les plus fidèles à Marine Le Pen sur toute la ligne et notamment la disparition de la présidence d'honneur occupée jusqu'à présent par Jean-Marie Le Pen. Décision logique pour Florian, 24 ans, qui milite depuis un an et demi à Paris.
Il était compliqué de rester avec un président qui est contre nous. C'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est personnel pour la présidente et pour son père. Je pense que c'est aussi très dur pour eux, mais on n'y peut rien et je pense que ça attriste n'importe qui.
Quant à la polémique concernant le manque de transparence dans la consultation des adhérents FN qui justifie aujourd'hui la proposition d'un nouveau nom pour le parti, eh bien, peu importe, selon Pauline, militante dans le département du Cher.
On a tous eu des questionnaires, on a tous renvoyé, donc je vois pas pourquoi il y aurait forcément une polémique à dire que c'est passé parce qu'on a triché, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis convaincue que ça s'est passé dans les règles de l'art. S'il n'y avait pas d'huissier, c'est pas grave. De toute façon, ça va pas changer les lois ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, c'est pas non plus dramatique qu'il n'y ait pas eu d'huissier, enfin, à mes yeux.
Un changement de nom qui suscite tout de même quelques remous chez les plus anciens, comme Christian et Patrick, deux adhérents de la Vendée.
Tout ce qu'ils veulent changer, c'est le mot « front ». Donc, aujourd'hui, c'est là il faut faire front. Il faut regrouper toute cette vraie droite. Voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Il y a des gens au front maintenant qui vont voter pour le changement de nom parce que pour eux, le Front National, surtout les jeunes adhérents, les adhérents récents, pour eux, c'est la période Jean-Marie Le Pen qu'ils rejettent un peu. Voilà. Nous, on ne la rejette pas cette période du tout.
Jean-Marie Le Pen, qui était en dédicace de ses mémoires hier à Paris et qui jubile au sujet de la venue du suprémaciste blanc, Steve Bannon, il n'est pas exactement la définition de la dédiabolisation, a-t-il déclaré.
Et alors que son ancien conseiller vient flatter l'ego de l'extrême droite européenne, Donald Trump, lui, reste sur sa ligne protectionniste. Le président américain pose ce matin ses conditions à l'Union européenne. Si les 28 veulent échapper aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium, ils devront baisser les barrières douanières et réglementaires sur les produits américains. Une mise en garde publiée sur Twitter quelques heures avant un meeting à Pittsburgh, en Pennsylvanie, l'ancienne capitale de la sidérurgie américaine. Une population particulièrement sensible à la politique commerciale du président. Reportage de Grégory Phillips.
Donald Trump est là pour soutenir le candidat républicain à une élection locale qui aura lieu mardi pour désigner le nouveau sénateur de Pennsylvanie. Mais en vérité, le président a un message à faire passer. L'acier est de retour. La foule réunie dans ce hangar acclame Donald Trump. Dave, qui porte un casque jaune sur la tête, travaille depuis ses 18 ans dans la sidérurgie. Il en a aujourd'hui 32. Oui, il relance l'acier ici, et c'est bien. Je suis content qu'il fasse ça. L'acier qu'on importe, il est vraiment pourri. Taxer les importations d'acier et d'aluminium, Trump, candidat, avait promis de le faire. Eh bien, il tient sa promesse, se félicite Nancy. Elle est venue de Virginie-Occidentale, un état voisin où la désindustrialisation a aussi fait des ravages. Mon grand-père travaillait dans un haut fourneau, et maintenant, il n'y a plus rien là-bas. Oui, il est temps, vraiment. Il est temps que les autres pays commencent à régler ce qu'ils nous doivent. À cette foule d'ouvriers et de supporters, Trump jure que les aciéries et les hauts fourneaux vont rouvrir et dévoile le slogan de sa campagne déjà pour 2020. Keep America Great, préservons la grandeur de l'Amérique.
Un reportage à Pittsburgh de Grégory Phillips. Quartier par quartier, ville après ville, le régime syrien continue de progresser dans la Ghouta orientale. Hier, les forces gouvernementales ont pris Douma, la ville principale de l'enclave rebelle à l'est de Damas. En 20 jours d'offensive, ce sont près de 1000 civils qui ont été tués par les bombardements. Les autorités locales de Douma lancent un appel au secours. De nombreux habitants sont obligés de dormir dans des parcs ou dans la rue, faute de place dans les abris et les sous-sols. Le résultat est tombé il y a quelques minutes en Chine. Le Parlement valide sans surprise l'abolition de la limite des mandats présidentiels. Un vote qui ouvre la possibilité à Xi Jinping de se maintenir à la tête de l'État après le terme prévu en 2013. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, d'immenses vagues qui déferlent sur la côte nord du Japon et qui provoquent l'une des plus grosses catastrophes nucléaires de l'histoire. Les Japonais commémorent aujourd'hui le tsunami de Sendai, catastrophe à l'origine de l'accident de Fukushima et ses 20 000 morts. 7 ans après, la situation est toujours critique à la centrale et dans les territoires contaminés autour. Et même si le gouvernement tente d'organiser un retour à la normale, seuls 10% des habitants sont revenus. Jean-Christophe Gariel est directeur santé à l'IRSN, de radioprotection et de sûreté français.
Les personnes qui reviennent et qui ont envie de revenir sont les personnes âgées qui sont attachées à leur maison, à leur territoire. La situation est beaucoup plus difficile pour les familles. Les familles qui ont été évacuées ont été s'installer ailleurs, qui ont pris des habitudes par ailleurs. Il y a toujours le problème de la contamination radioactive qui interroge notamment les parents vis-à-vis de leurs enfants. Pour certaines parties de communes, et là je pense essentiellement aux zones montagneuses un petit peu isolées et aux zones de forêt, il est nécessaire que les personnes fassent attention à ne pas passer trop de temps dans cette zone qui n'ont pas été décontaminées. Décontaminer une forêt, ça consisterait effectivement à la raser, ça produirait des millions de tonnes de déchets, ce qui est ingérable, et par ailleurs, je ne vous cache pas que dans une région comme le Japon, le fait de déforester, ça produirait une catastrophe écologique.
Et pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Fukushima, plusieurs associations et syndicats français organisent aujourd'hui un rassemblement à 14h, place de la République à Paris. La France Insoumise, elle, se saisit de cette actualité pour relancer le débat sur la place de l'atome en France. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon organise une votation citoyenne avec cette question. Êtes-vous favorable à la sortie du nucléaire? Un vote ouvert aux adhérents, mais aussi plus largement aux citoyens qui voudraient donner leur avis sur cette question. Des bureaux de vote devraient être ouverts un peu partout, mais aussi un vote en ligne. Mathilde Panot, députée France Insoumise détaille ce nouveau mode d'action politique.
Donc nous avons commencé à faire une campagne de conviction à partir de mi-janvier, notamment avec 1 500 000 tracts qui sont partis, 150 000 affiches et 100 000 autocollants. Des réunions publiques, il y en a déjà eu 50 dans tout le pays et qui continuent. Nous avons aussi fait des ateliers des lois, donc l'idée de pouvoir transcrire la proposition qui est la sortie du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables en proposition de loi législative avec des citoyens. Et la France Insoumise est co-organisatrice du Rassemblement national qui aura lieu à partir de 14h à République à Paris pour la date symbolique donc des 7 ans de Fukushima. Donc, nous avons par-ci un groupe vert qui va organiser une votation, par-là un groupe de réseau sortir du nucléaire qui va en organiser. Donc il y a pas mal de gens à titre individuel qui y participent. Et ensuite, chacun est libre, justement. Le fait que ces points de votation ne soient pas marqués France Insoumise va permettre aussi que les bureaux de vote soient tenus au-delà des militants de la France Insoumise.
Et Mathilde Panot, députée France Insoumise, avec Sophie Delpont. Le journalisme est une activité utile et de plus en plus nécessaire pour plus de 90% des Français. Ceci n'est pas un message d'autopromo, quoique, mais le résultat d'une étude réalisée par Via Voice à l'occasion des Assises internationales du journalisme. Des premiers résultats qui montrent donc, à l'encontre de certaines idées reçues, que la défiance envers les médias des Français n'est pas si importante, Charlotte Baris.
Pour 9 Français sur 10, le métier de journaliste est nécessaire. Étonnant, alors que selon d'autres enquêtes récentes, c'est l'une des professions qui inspire le moins confiance à côté des politiciens ou des agents d'assurance. Un métier nécessaire pour la démocratie et la liberté d'expression, mais aussi pour comprendre l'actualité du moment et le monde. Pour les personnes interrogées, le journaliste doit enquêter, dénoncer des problèmes dans la société, mais surtout vérifier les informations. Justement, le public est conscient de l'existence et du danger des faits fake news. Pour plus de 7 Français sur 10, il est de plus en plus important de consulter des médias sérieux et d'avoir des journalistes qui vérifient les informations. Un peu surprenant, là encore, quand on sait que seulement 26% des Français se rendent directement sur un site de médias traditionnels pour aller chercher l'information. La proportion est encore plus faible pour les 18-24 ans. Et si les Français sont globalement plutôt favorables à une loi sur les fausses informations, eh bien pour eux, c'est surtout l'éducation aux médias à l'école qui est la plus importante. Des résultats sûrement à nuancer, aucune question posée sur les sentiments des personnes interrogées envers les journalistes au-delà de leur utilité.
Précision signée Charlotte Baris. Quel temps pour ce dimanche ? Encore des averses sur une grande partie du pays, à l'exception du sud-ouest. Mais les températures sont encore très douces, 12 à 17 degrés sur la moitié nord et de 14 à 19 degrés sur le sud-ouest du pays.